Jusqu'ici, tout va bien.
C'est Canu Info, en fait.
En 1955, alors que l'insurrection indépendantiste en Algérie prend de l'ampleur, le gouvernement et l'Assemblée de la 4ème République adoptent une loi d'exception, l'état d'urgence. Il s'agit de donner à la police et à l'armée des pouvoirs spéciaux leur permettant de mettre en place des techniques de contre-insurrection. 50 ans plus tard, en 2005, les banlieues des villes françaises entrent en insurrection à leur tour. Le gouvernement, dirigé par Dominique de Villepin, met en place, lui aussi, les lois exceptionnelles de 1955. À nouveau, c'est l'état d'urgence.
Ce contexte particulièrement grave, le président de la République a décidé de convoquer demain matin le Conseil des ministres et de mettre en œuvre les dispositions de la loi de 1955.
Le Premier ministre sur le plateau de TF1, de Villepin, 2005.
Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu, s'ils l'estiment utile, pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir.
Extrait d'un texte de Sylvie Thénault dans la revue Le Mouvement Social en 2007. Le lundi 7 novembre 2005, Dominique de Villepin informait les Français de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence. Toutefois, comme le président Jacques Chirac, il a évité d'employer le terme « état d'urgence », préférant parler de la loi de 1955, terme plus neutre. Utiliser ce mot, c'était reconnaître aux yeux du monde que la France était à feu et à sang. C'était affirmer qu'un état d'exception était devenu indispensable après une dizaine de jours de violence dans le pays. Le Premier ministre Dominique de Villepin, prudent, ne parla que de couvre-feu. L'état d'urgence permet aux représentants de l'État, préfets dans les départements et, en 1955, gouverneur général en Algérie, d'instaurer un couvre-feu, de réglementer la circulation et le séjour dans certaines zones géographiques, de prononcer des interdictions de séjour et des assignations à résidence contre des individus. Il autorise aussi la fermeture de lieux publics, tels que des salles de spectacle, des cafés ou des salles de réunion. Il autorise aussi l'interdiction de réunions, de rassemblements, la confiscation d'armes détenues par des particuliers, mais aussi le contrôle de la presse, des publications, des émissions de radio, ou encore des projections de cinéma et des représentations théâtrales. Enfin, et surtout, il dessaisit la justice de prérogatives essentielles. Les autorités administratives obtiennent le droit de pratiquer des perquisitions, de jour comme de nuit, et la justice militaire peut être déclarée compétente. En 1955, de telles mesures répondaient spécifiquement aux besoins des autorités confrontées au développement d'une insurrection en Algérie. Comment, alors, cette loi, votée comme une loi de circonstance, peut-elle être remise en vigueur un demi-siècle plus tard, en 2005, aujourd'hui en 2015, dans une conjoncture totalement différente? Le recours à l'état d'urgence serait-il l'indice d'un héritage colonial non assumé, mais ressurgissant à la faveur de l'actualité?
La guerre, c'est utiliser tous les moyens dans notre démocratie, dans l'état de droit, pour protéger les Français. Donc c'est en effet l'état d'urgence, nous allons voir si nous allons le prolonger. Le temps nécessaire, nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec l'état d'urgence, mais tant que la menace est là, nous devons utiliser tous les moyens.
Ça peut être pour toujours, that could be forever.
Jusqu'à ce qu'on puisse évidemment en finir avec Daesh. C'est une guerre totale et globale que nous mène le terrorisme. Donc la guerre que nous devons mener, elle doit être aussi globale, totale et d'une certaine manière impitoyable. Mais cette guerre ou ce risque terroriste, nous allons le connaître avec tant que ne cesseront pas les convulsions au sein du monde arabo-musulman. Et puis nous avons dans nos propres sociétés, en France, mais en Europe, des centaines, des milliers de jeunes qui ont basculé ou qui peuvent basculer dans cette radicalisation.
Oui, oui.
Donc le danger, la menace sont aussi au sein de nos sociétés. C'est tout le travail de renseignement, mais c'est aussi la mobilisation de la société.
Le régime impérial fonctionne invariablement selon la même dramaturgie. Quelque chose, pour une raison quelconque, se manifeste comme étranger à l'Empire, ou comme tentant de lui échapper, d'en finir avec lui. Cet état de choses définit une situation de crise, à quoi l'Empire répond par un état d'urgence. Alors, seulement, dans le moment éphémère de ces opérations réactives, on peut dire « l'Empire existe ». D'après Tikkun, contribution à la guerre en cours, 2001.
C'est pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République devant le Congrès, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux.
À notre empire colonial.
Lecture d'un article de Giorgio Agamben, 1993. Il est important de remarquer qu'à partir de la Première Guerre mondiale, nombre d'États européens commencèrent à introduire des lois qui permettaient la dénaturalisation et la dénationalisation, c'est-à-dire la déchéance de nationalité de leurs propres citoyens. La France le fit la première, en 1915, avec les citoyens naturalisés d'origine ennemie, d'origine allemande par exemple. En 1922, l'exemple fut suivi par la Belgique, qui révoqua la naturalisation des citoyens qui avaient commis des actes anti-nationaux pendant la guerre. En 1926, le régime fasciste italien promulgua une loi analogue envers les citoyens qui s'étaient montrés indignes de la citoyenneté italienne. En 1933, ce fut le tour de l'Autriche, et ainsi de suite jusqu'en 1935, lorsque les lois de Nuremberg séparèrent les Allemands en citoyens de plein droit et en citoyens sans droit politique. Ces lois, et l'énorme masse d'apatrides qui allait en résulter, ont marqué un changement décisif dans la vie de l'État-nation moderne, qui s'affranchit définitivement des notions naïves de peuple et de citoyen. Giorgio Agamben, 1993, dans Moyen sans fin, note sur la politique.
J'ai vu des fins et des moyens obscurcir l'histoire. Matérialisme économique, aliénation du noir. J'ai vu un soir un type se goinfrer comme un triple chien. Il me dit tu vois de clou j'ai faim et la faim justifie les moyens. La faim.